Radio JV présente. Chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce second numéro du Player Club. Oui, second numéro, la première elle se passe toujours bien et généralement c'est dans la deuxième que ça dégénère. Autour de moi j'ai trois personnes, deux habitués et un invité. Tout d'abord, eh bien Oscar le maire, bonsoir, est-ce que tu nous entends, est-ce que tu es là Oscar?
Oui, bonsoir.
Alors, on peut te suivre sur Twitter à Oscar le maire, on peut te lire chez Gamekult et on peut te lire chez gamescharts.fr.
Oui, même si GameChart c'est pour l'instant HS, mais ça va
il
bientôt
HS
revenir.
Ah, oh, bah j'espère oui. Que ça reviendra bientôt, oui, effectivement, parce qu'on peut y lire des très bonnes, de très fines analyses sur l'industrie du jeu vidéo en chiffres, mine de rien.
Exactement.
Avec nous, il y a un autre habitué de ces merveilleuses émissions de Radio JV, c'est Jay.
Oui, bonjour.
Alors Jay, évidemment, qu'on a pu entendre il y a quelques jours, vendredi, dans les tauliers, en direct, comme chaque mois.
Tout à fait, mais je serai sympathique dans cette émission contre un atelier.
Oh, c'est bon. Voilà, on a différentes... j'ai envie de dire qu'on a 50 Shades of Jay.
Non, il est juste 21h, c'est tout.
D'accord, voilà. C'est à 22h30, en fait, la transformation se met en
ça,
place.
Oui,
t'as la ligne qui brille bizarrement, ça fait un truc un peu loup-garou.
C'est ça.
Et sur Twitter, c'est @jgameweb.
Exact.
Fantastique. Notre invité, c'est Bastien Péan. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors toi, tu fais plein de choses, mais surtout, eh bien, tu as fondé ffring.com, c'est ça?
Exactement, ffring.com, qui a 11 ans.
Mais oh là là, quelle histoire! Qui est sur Internet, 11 ans!
Il est presque plus vieux que moi.
Oh là là!
Et voilà, j'ai fondé ce site-là en 2003. Et
donc un site, une communauté dédiée à Final Fantasy.
Exactement, à Square Enix même plus largement.
Oh, d'accord, très bien. Donc si on est intéressé par les jeux Square Enix, allons-y, fonçons gaiement bras dessus, bras dessous sur ffring.com.
D'accord.
Et voilà, ça c'est pour les personnes qui sont avec moi dans le studio ce soir. Vous pouvez réagir, chers auditeurs, au hashtag leplayerclub. Et ce soir, on va faire plein de choses. On va avoir le rappel des titres avec un petit peu d'actu. On aura une chronique de notre ami Fumble qui nous emmènera dans l'espace. Et surtout, eh bien, la rubrique dédiée à Final Fantasy vue en 2014. Et donc, comme de tradition, second numéro dans le Player Club, on attaque avec un petit peu d'actualité. Trois news qui ont retenu mon attention pour cette semaine. Tout d'abord, c'est Valve qui a annoncé pour Steam une nouvelle fonctionnalité qui était longtemps pressentie, qui est celle de pouvoir jouer de la musique dans Steam. Alors, c'est pas la première fois, effectivement, qu'on va dire un programme dédié à faire tourner des jeux et en télécharger intègre de la musique. Sony a tenté le coup, Microsoft aussi. Microsoft avec notamment Zune qui était un peu leur opération pour concurrencer iTunes et l'iPod du côté d'Apple. Pour l'instant, ce que fait ce système-là, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui dites « J'ai ma musique dans ce dossier » et il va aller chercher votre musique. Et si jamais vous avez acheté des bandes-son de jeux depuis le store, il vous les intégrera aussi à l'intérieur. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de gérer sa bibliothèque musicale avec Steam ou est-ce que c'est pas déjà assez le bordel comme ça? Enfin, on dirait vraiment le nouvel iTunes qui gère tout et n'importe quoi. C'est quand même un peu triste pour le coup.
Mon côté, non, j'en ai rien à foutre.
Très bien. Bah écoute, je crois que c'est une réaction finalement assez saine.
Je partage cet avis. J'en ai également rien à foutre. Et d'ailleurs, j'écoute pas du tout de musique en streaming.
Ah.
Donc voilà. Moi, je suis encore un connard qui achète des vinyles.
Mais là, pour le coup, c'est vraiment, il va simplement chercher ta musique dans un dossier. Il veut pas vraiment la streamer. Il veut juste la récupérer.
Ouais, même en numérique en fait.
Écoute, voilà. Ben c'est une façon de le faire aussi. C'est une belle façon de le faire, d'écouter la musique en ayant le support. Du côté de Sony, on commence un peu à claquer des dents puisque ça va pas très bien au niveau du bilan financier de la société elle-même. Par contre, Sony espère que la division PlayStation puisse leur rapporter de l'argent sur les prochaines années. Notre ami Andrew House de Sony Computer Entertainment a déclaré qu'il pense que la PlayStation 4 peut générer plus de thunes que de la PlayStation 3 par utilisateur, probablement parce que le PlayStation Network et surtout le PlayStation Plus qui permet de jouer en ligne est payant et est désormais obligatoire pour pouvoir faire un bon paquet de choses. Est-ce que vous pensez, vous, que Sony peut bien remonter parler via le bilan PlayStation. PlayStation, ça tourne bien. Oscar, toi qui suis un peu les chiffres malgré tout, même en restant extrêmement vague, hein, est-ce que tu penses que ça tient la route, cette logique?
Bah plus ou moins, c'est-à-dire qu'effectivement le business PlayStation marche très bien en ce moment. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour toute la société qui va très mal, et notamment l'activité télé qui ramène beaucoup de pertes, ça va être difficile, quoi, parce que la PlayStation elle toute seule, ça va pas être évident pour relancer Sony dans son ensemble.
D'autant plus qu'on n'a pas l'impression que la PlayStation Vita rapporte beaucoup de thunes en elle-même, pourtant ils la maintiennent jusque-là, donc c'est vrai que c'est une situation assez étonnante dans laquelle se trouve Sony pour le moment.
J'ai envie de dire qu'on l'avait un peu dit il y a quelques années, quoi, hein, que Sony allait se vautrer et que ça commençait à devenir compliqué, parce qu'on avait tous les voyants rouges sur toutes leurs autres boîtes, et qu'effectivement il n'y a que PlayStation qui peut éventuellement les sauver du marasme, mais ça va être très compliqué.
Donc, il faudra très probablement couper d'autres branches.
Mais
peut-être
bon,
on va
quand même croiser les doigts pour qu'ils s'en sortent. Hein.
Effectivement. Ou alors, peut-être, comme ça a été imaginé un jour pour Xbox, peut-être faire sécession de PlayStation, de Sony, ça paraît imaginable, ça, PlayStation sans Sony? Ou absolument pas pour toi, comme ça, non?
Non, c'est pas admissible, et j'allais dire que ça nous obligerait à jouer à l'Xbox One, et ça me ferait bien.
c'est une façon de le voir, effectivement. Enfin, pour revenir à Nintendo, une fois n'est pas coutume, figurez-vous que la nouvelle 3DS, qui n'est toujours pas annoncée pour les États-Unis et pour l'Europe, a été confirmée via Nintendo of Australia pour le 21 novembre 2014, ce qui en fait la première console que vous pouvez importer depuis l'Europe et qui jouera les jeux PAL. Donc c'est un semblant de compatibilité avec toutes les zones de régionales, simplement de jeux. Pour le coup, est-ce que vous la voulez la 3DS, la nouvelle 3DS? Est-ce que vous seriez prêt à la commander chez nos amis australiens si jamais elle sortait qu'en 2015, horizon 2015, comme pour l'instant les dates nous laissent à penser? Est-ce que elle vous fait tellement envie que ça?
Alors moi, pour ma part, j'ai la 3DS, la toute première qui est sortie, la bleue là.
Ouais. Tu l'as eu au lancement, quelque chose comme
ça? Ouais, je l'ai eu au lancement, et je me rends compte en jouant à Theatrism et à Fantasy Life et à tous les autres jeux plutôt cool qui sont sortis que c'est vrai que j'aimerais bien passer un écran un peu plus grand. Et c'est vrai que ce qu'ils ont annoncé avec cette nouvelle console, ça me botte plutôt, mais je pense que je vais attendre qu'elle sorte en Europe si elle sort un jour.
D'accord.
Je sais pas quelles sont les chances qu'elles sortent en Europe, j'espère qu'elles sont assez fortes quand même.
Alors,
ça paraît vraiment improbable qu'elles sortent pas en Europe, c'est plutôt une question de timing à mon avis.
Bah, je peux te le garantir, elles sortiront en Europe l'année prochaine, déjà ça c'est sûr. Et je suis un peu comme Bastien, étant donné que moi j'avais pas de XL, bah je vais prendre la XL, enfin je vais prendre New Nintendo 3DS XL.
On a été plus malin que les autres en fait.
Voilà.
Très bien, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on a fait le petit tour de l'actualité, du rappel des titres. En tout cas, si vous voulez plus d'actualité, restez à l'écoute ou téléchargez le Passe Stick si vous nous écoutez en podcast, puisqu'ils vont revenir tout à l'heure sur l'actualité jeux vidéo de la semaine avec notamment le test de Super Smash Bros 3DS, donc ce serait quand même dommage de manquer ça. Nous, pour notre part, on va rejoindre Fumble, on va partir dans l'espace pour sa chronique, sa carte blanche dédiée à l'exploration spatiale en free roaming. On s'écoute ça tout de suite dans le Player Club.
Pour cette chronique, j'ai choisi, chers auditeurs, un sujet totalement imbitable qui doit concerner trois pelés et une poignée de titres parmi notre beau média. J'entends la transition sans chargement entre les planètes et l'espace dans les jeux vidéo. Oui, il faudra vous y faire. Alors, pour que vous compreniez déjà le sujet, on va revenir aux Video Games Awards de l'année 2013, dont personne ne se souvient, sauf pour le trailer d'un tout nouveau jeu indé prévu sur PS4 et nommé No Man's Sky. On y voit une planète inconnue sur laquelle le joueur déambule entre deux dinosaures aliens qui broutent de l'herbe orange, un paysage bucolique, mais ni une ni deux, le joueur monte dans un pseudo X-Wing, décolle et d'une traite se retrouve dans l'espace intersidéral, fortement peuplé de vaisseaux en tout genre, d'astéroïdes un peu trop près de l'atmosphère pour être honnête, et même paf, une autre planète juste en face sur laquelle notre aventurier va aller folâtrer. Tout cela sans jamais un seul chargement. Alors, certes, ce n'est qu'une démo technique, une intention des développeurs de Hello Games pour leur futur jeu. On y croit ou on n'y croit pas, mais je pense sincèrement que le succès de cette annonce s'est construit sur ce moment magique où l'on quitte l'atmosphère et aussi quand on retourne sur le plancher des vaches sans même une petite suée et surtout sans chargement en streaming. À l'heure actuelle, à moins qu'on ne me cache des choses, seul le jeu vidéo peut nous faire vivre des sensations pareilles. Et No Man's Sky n'est pas le premier titre à nous les proposer. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il en sera à l'arrivée. Retournons plutôt en 1993 avec Elite 2, la suite du fameux premier explorateur spatial de David Braben, qui nous prépare en ce moment même Elite Dangerous. Elite 2, lui, proposait déjà aux pilotes de se poser sur n'importe quel astre rencontré, même les soleils si vous aviez des envies de suicide. Bien entendu, à l'époque, une planète ou une lune n'était que des grosses sphères lisses sans texture. On ne voyait que quelques structures en 3D aux emplacements des bases sur lesquelles atterrir pour faire du commerce. Mais à part ça, le désert. Cependant, j'ai moi-même, à l'époque, en mode manuel, et c'était pas facile, posé mon vaisseau sur un bout de caillou en orbite autour d'une planète. Et je suis resté là, comme un con, à regarder l'univers tourner autour de moi. Et c'est une expérience qui est restée gravée dans mon âme de joueur. Récemment, avec le petit et costaud jeu Rodina de l'unique développeur d'Elliptic Games, j'ai pu revivre ces sensations. Rodina est en early access sur Steam, mais il propose déjà un scénario complet et beaucoup de combats, mais surtout un système solaire avec 4 planètes de taille réelle. Oui, taille réelle. L'une d'elles est semblable à la Terre. Bon, côté look, on est toujours proche d'Elite 2 avec un peu plus de relief et une texture au sol. Mais là encore, malgré cette simplicité visuelle, les sensations entre le voyage spatial et la possibilité de se promener sur la Terre ferme sans transition sont étonnantes. Alors, pourquoi ? C'est comme si on était dans deux mondes différents. Fixé sur le plancher des vaches, et si la simulation est bien faite, comme dans Elite 2 ou Rodina, on peut voir l'univers tourner autour de soi. On se sent comme le centre du monde autour duquel tout pivote. Si on était à la place du fameux Curiosity, qui traîne pourtant pas bien loin, je suis sûr qu'on se sentirait pareil sur Mars, comme au centre de l'univers. Alors que tout le monde sait que c'est la Terre le centre de l'univers, n'est-ce pas ? Mais une fois dans l'espace, grâce à la magie de la technologie SF, les rôles s'inversent. C'est l'univers qui semble fixe et nous allons où nous voulons, comme nous le souhaitons. C'est l'ultime monde ouvert. On troque alors une certaine sécurité contre une liberté totale. Et le fait de pouvoir le faire sans transition, sans pause ni chargement, renforce, décuple même ces deux sentiments. Pour faire de la psychologie de salle d'arcade, je dirais même qu'on vit cela un peu comme un accouchement, mais que l'on peut toujours retourner dans le ventre de sa mère quand on a besoin. Alors, essayez Rodina, c'est le meilleur moyen de ressentir tout cela. Quand vous approchez de votre première planète à vitesse supraluminique, quand vous descendez en flamme dans l'atmosphère, quand vous verrez l'horizon se déplier au loin et que vous vous poserez sur un sol inconnu, quand vous sortirez de votre vaisseau pour regarder les étoiles en vous disant « j'étais là, il n'y a pas 2 minutes », là, vous comprendrez toute la fascination des êtres humains normalement constitués pour l'espace ou les photos de Mars en HD. Personnellement, je ne m'en lasse pas.
De 21h à 22h, le Player Club.
Nous sommes de retour dans le Player Club. Jet a une réaction par rapport à la chronique de Fumble, je crois.
Bah, c'est super intéressant, mais il est une voix de merde.
Ah, non, enfin.
Fumble, je te fais des bisous, mais franchement, t'as une voix de merde.
Non, c'est pas gentil. Enfin, bref. Avec nous toujours Bastien Péan, Jet et Oscar Le Maire. Oscar, t'es toujours avec nous? Ah, voilà, pas fantastique. On a un petit souci de connexion avec Oscar qu'on a tenté de régler un peu en off. On ne l'entend pas. Et ben, on va continuer comme ça. Écoutez, hein, on est tranquille, on est parmi nous. Vous réagissez au hashtag le Player Club et allons-y.
En même temps, ça va parce qu'Oscar, il y connaît pas grand-chose en FF.
T'es salaud parce que quand même, il a des choses à dire et j'espère qu'on pourra l'avoir.
Ah ouais, sur les chiffres, ouais, indispensable.
carrément. Mais tout d'abord, on va donc attaquer Final Fantasy en 2014, et quand même, l'événement là du TGS qui s'est terminé la semaine dernière, c'était Final Fantasy XV. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu, à part évidemment sur la technique, parce que c'est en gros ce sur quoi tout le monde a commenté, regardez chez beau, regardez chez du temps réel, bleu. C'est quand même 8 ans de développement jusque là. Le jeu, selon Hajime Tabata, qui est le game director, il a 55% terminé. On en est où avec ces 8 ans de développement? À quoi ça rime? Qu'est-ce que ça donne? Enfin, à quoi on doit s'attendre avec avec ce jeu-là, finalement?
Vas-y, Bastien.
Huit ans de développement, c'est 8 ans de développement sur différentes consoles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un long temps de développement quand Nomura était encore à la tête du projet. Mm-hmm. Donc, un jeu qui a été annoncé en 2006. Je pense que Tetsuya Nomura a eu le temps de vraiment construire un univers, de construire ses personnages, d'affirmer ses ambitions pour ce nouvel épisode. Et en 2012, quand le jeu est devenu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire Final Fantasy XV sur PS4 et Xbox One, effectivement, le développement a repris de zéro, entre guillemets. C'est-à-dire que la partie technique du développement a repris de zéro, mais tout l'univers qui a été construit par Nomura toutes ces années... n'a pas servi à rien. C'est-à-dire que quand on dit il est à 55% de son développement, on extrapole un peu parce que il y a quand même tout un travail de background, d'écriture, de la conception de l'univers de Fabula Nova Crystallis, qui est la compilation dans laquelle il s'inscrit, qui a quand même été qui a été travaillé pendant toutes ces années.
Donc il est très clairement dans la continuité des précédents épisodes en termes d'univers.
C'est
ce que ça comprend. Et pour le coup, effectivement, tout ça, contrairement justement à d'autres jeux qui ont pris une chier de temps à être développés et à sortir, comme par exemple Team Fortress 2, là on a vraiment une unité de réflexion. Ils sont vraiment partis d'une certaine base, et c'est après 8 ans de réflexion qu'ils en sont là.
Oui, et je pense que la seule erreur qu'ils aient faite, c'est d'en parler aussitôt, en fait.
Et puis attention, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. C'est pas comme si on n'était pas habitué avec le jeu vidéo japonais à avoir des trucs repoussés ad vita aeternam, ou même dans l'histoire de Final Fantasy, le développement est égal au chaos absolu de tous les FF, quels qu'ils soient. On se rappelle très très bien d'FF12.
Enfin,
arrêter d'oublier les choses. Faut arrêter d'avoir une mémoire à la petite semaine, parce que FF12 c'était déjà le cas et il y a déjà eu un changement de directeur, etc. Sauf que là, on a c'est pas vraiment les mêmes raisons.
Le changement de directeur sur FF12 était un peu plus dramatique entre guillemets, c'est-à-dire que Matsuno a vraiment été viré du projet. Là, on n'est pas du tout dans la même perspective.
Voyons, Bastien, il était malade. On t'a dit qu'il était malade.
Ah oui, c'est vrai que je ne crois que ce que je vois. mais voilà, le changement de direction, je pense qu'il faut plutôt percevoir ça comme le travail de Nomura a été fait, il a été bien fait. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. La passation a été faite il y a 2 ans au moment de l'annonce du passage sur les nouvelles consoles. En fait, on est vraiment là dans un développement un peu plus technique, et au développement de toute la partie gameplay et technique. Faut pas avoir d'inquiétude quant au départ de Nomura, si certains étaient encore inquiets de cette annonce.
Donc... Oui, et puis attends, je termine juste sur cette idée. Je pense que Nomura, au bout de 6 ans, de 8 ans de travail, il en a juste plein le cul d'être toujours sur le même jeu, que ça fait 3 ans qu'il réclame à corps et à cri de travailler sur Kingdom Hearts 3, qui est quand même sa série à lui, parce que FF ce n'est pas sa série, et donc du coup qu'il a probablement d'ailleurs demandé au nouveau boss de Square l'année dernière, il y a eu un nouveau boss, puisque Wada s'est fait dégager et tant mieux, et que donc il a demandé au nouveau boss simplement, est-ce que je peux travailler sur mon Kingdom Hearts, et est-ce que tu peux donner la fin du portage sur la PS4 à machin qui s'en est très bien sorti avec Type-O, et ça tombe bien, ça tombe bien étant donné que il est disponible, quoi, tu vois. C'est comme ça que ça s'est passé, je pense.
Toi, tu parles vraiment de portage, on en avait déjà parlé. Toi, tu considères vraiment que le développement actuel de FF15 est vraiment un portage de la version PS3 à la version next-gen?
Ah bah je peux presque même l'affirmer, et le truc c'est que quand ils sont passés sur PS4, ils se sont rendu compte que ça marchait plus. Ouais. Ça il fallait revoir l'ambition, que on pouvait faire des choses encore plus ouf que ce qui était prévu sur PS3. Mmh. Évidemment, enfin ça me paraît presque évident puisque c'est exactement la même histoire que la plupart des Biohazard. À chaque fois, Capcom a le même problème, quoi. Enfin, je veux dire, ce changement de génération de console provoque toujours ce genre de problème au Japon, toujours.
Parce que
sur les gros jeux.
Eux, ils ont quelques soucis avec justement les outils pour faire tourner le moteur et pour pouvoir développer le jeu. Finalement, c'est ça qui rentre en considération. C'est d'avoir les bons outils.
Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que Square fonctionne avec des équipes qui tournent. C'est-à-dire que si jamais tu galères sur un projet, l'équipe qui est en train de bosser sur le jeu qui va arriver dans 3-4 ans, si tu veux, arrête son projet, le met entre parenthèses, le met en pause, de façon à aider à donner des moyens matériels et humain à une équipe qui est en galère. Résultat, c'est ce qui s'est passé pendant toute l'histoire là du développement de Versus 13 qui est devenu FF15. C'est qu'ils sont partis sur d'autres jeux pour les aider à les terminer. Genre FF13, genre...
c'est quand même ironique.
Bah oui, mais c'est comme ça.
Parce que je veux dire, tu développes, on va pas dire la suite, mais en tout cas l'épisode un peu frère du FF13 normal, tu vas bosser justement sur FF13 parce que lui, il est à la bourre. Donc t'apportes potentiellement des idées et t'apportes un savoir-faire qui allait être mis dans Versus 13. Donc c'est, pour le coup, c'est marrant.
Oui, puis c'est le serpent qui se mord la queue, on est presque dans l'ouroboros, quoi. C'est vraiment le côté, je fais des progrès sur d'autres jeux, mais je me rends compte que finalement mon jeu, là où je l'ai laissé, il est has-been, donc du coup il faut que je reprenne le développement. Et le problème de quasiment tous les jeux Jap comme ça qui se retrouvent dans un conflit générationnel, c'est-à-dire où ils galèrent un petit peu au départ et au moment où ils veulent le sortir, perdu, on annonce une nouvelle génération de consoles, et ils se retrouvent tous dans la même situation.
J'ai l'impression quand même qu'ils ont réussi à optimiser un peu leur temps de développement sur Next Gen, parce que bon, on l'a dit, hein, les graphismes sont vraiment beaux, et d'habitude Square Enix met un peu de temps avant d'apprivoiser une console. Là, je pense qu'on ne sait pas quand va sortir le jeu, mais j'ai l'impression que au moment où il va sortir, ça va être une claque graphique, et ils ont réussi à dompter quand même la machine, à mon avis, pour en faire quelque chose qui soit assez actuel au moment où il sort, quoi.
Alors en fait, la réponse à cette interrogation, enfin je vais aller dans ton sens, parce que ils ont appris à maîtriser la PS4 sur la PS3, puisque c'est à peu près la même architecture, sauf que elle est un peu plus simple. Donc du coup voilà, ceci explique cela d'une part, et d'autre part, je pense m'avancer en disant que le jeu sortira en février 2016. 2016, ouais.
Donc ça ferait 3 ans après, 2 ans et demi, 3 ans après son annonce à l'E3, sauf erreur.
Ce serait, on en reparle au TGS, on en reparle au Jump Festa au mois de décembre, parce qu'on va en reparler. Déjà, entre temps, il y aura une version streamée du gameplay un peu plus longue puisque ça a été annoncé. Grosso merdo, on refait une intervention vers février, histoire qu'on perde pas tout le monde. En plus, il y a la démo qui arrive en fin mars, je crois.
Alors, on sait pas. La démo, on sait pas. C'est-à-dire que il y aura un code de téléchargement de la démo qui sera proposé à l'achat de Taipo HD.
Ouais.
Mais en fait, la démo, on ne sait pas si elle sera disponible dès mars. Alors, les équipes de développement font en sorte que oui. Ouais. Mais il est possible que la démo sorte un peu plus tard. Mais en tout cas, en 2015, on aura la démo épisode du SCA.
Oui, voilà.
Qui permettra de voir le début du jeu, quoi.
Ça va se faire un mois après, quoi. Donc, on va dire avril, il y a la démo. Après, il y a l'E3. Et après, il y a de nouveau le TGS avec le launch trailer, à mon avis. Et ils balancent le jeu en février. Parce que, généralement, quand un Final Fantasy sort en démo, tu peux considérer entre 6 et 8 mois derrière pour avoir le jeu final. Donc voilà. Après, la question est de savoir est-ce que le fait qu'il soit uber beau, etc., va jouer un rôle, et est-ce qu'il est vraiment terminé à 55% ou pas. On verra.
Est-ce qu'ils vont passer 3 semaines à designer un bouton de porte ou un truc comme ça, effectivement. Mais ça, c'est un autre souci. Je vous interromps, il y a 3 tweets que j'ai envie de faire entrer dans la boucle. Nathan qui nous dit PlayStation 4 et Xbox égale architecture PC. Forcément, c'est plus facile pour le développement. Tom Dendale qui nous dit 8 ans de développement, pas de DLC. Est-ce qu'on doit s'attendre à ça, effectivement?
Alors, les DLC, on ne sait pas. En tout cas, il a été évoqué la possibilité de faire un jeu à épisode, comme ça a été le cas pour le 13. En tout cas, la question a été posée par des journalistes et le réalisateur a répondu que pour l'instant, lui, sa priorité était de développer le jeu et qu'on verra après, en gros.
Mais je pense. C'est assez sain.
Je pense que, oui, ce qui est assez sain, il a aussi évoqué le fait que le fanservice à tout va, comme on a pu le voir dans les derniers épisodes, c'était pas trop son délire et que, bon, voilà, il a l'air d'avoir un raisonnement plutôt sain, ce monsieur. C'est plutôt encourageant.
On sent qu'on a changé de prof pour un mec un peu plus sévère, mais ça a pas l'air mal, hein, finalement. Et Franz Rojon qui nous dit, et ça me permet de conduire à la seconde question de cette rubrique, sacrément audacieux cet épisode 15, empreinte réaliste, orientation action et cast exclusivement masculin. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus? Parce que c'est, effectivement, c'est assez rare de voir que des personnages masculins dans les personnages de l'équipe qu'on contrôle dans cet épisode de Final Fantasy, en tout cas de ce qu'on nous donne à voir jusque-là.
De ce qu'on nous donne à voir, oui. Après, on sait qu'il y a cette fameuse Stella qu'on voit depuis quelques trailers pour l'instant.
Enfin, en fait, la meuf qu'on a vue dans le trailer TGS apparemment s'appellerait Luna. Ouais.
Ouais, Luna. Alors, on ne sait pas si c'est la même ou si c'est une autre.
A priori, non. Justement, et ça a été plus ou moins confirmé, quoi.
Mais donc voilà, rien ne dit que ce personnage-là ne sera pas jouable. Alors pour l'instant, effectivement, on voit une bande de potes dans une bagnole et ils ont l'air, en tout cas, d'être tous des garçons, même si certains en doutent. Mais voilà, on peut pas trop s'avancer. Après, je pense qu'il faut pas faire de drama là-dessus non plus.
Bon, voilà, oui, moi, et puis enfin, c'est pas comme si c'était une nouveauté chez Nomura. Je veux dire, Kingdom Hearts, il y a pas vraiment de personnage féminin à part Aqua, enfin, qui est intervenu au bout d'un moment dans Birth by Sleep. Mais voilà, Nomura a envie de faire un jeu avec 4 buddies en mode road movie façon Ocean Eleven. Bon, bah, c'est son problème. Je veux dire, voilà, c'est un parti pris. Après, ça choque parce que forcément, Final Fantasy a toujours reposé sur les personnages féminins forts qui ont toujours été au centre des intrigues et c'est des personnages très appréciés, très joués, quoi. Mais rien ne dit, comme le dit Bastien, qu'ils nous ont pas mis une carotte, genre on vous dit rien pour le moment et plus tard on va découvrir que finalement il y a des meufs qui sont jouables ou d'autres personnages jouables que justement les 4 personnages principaux, quoi.
Et faut pas oublier non plus que la saga FF13 reposait sur un personnage féminin très fort qui était Lightning. Voilà, donc les femmes ont toujours leur place dans la série Final Fantasy et c'est pas parce que pour le moment il n'y a pas de femmes dans la team de FF15 que ça va être ad vitam aeternam, quoi.
Voilà, exactement.
Alors, toujours Franz Rejon qui réagit au hashtag Le Player Club et qui nous dit: Nomura a confirmé que seul Noctis sera vraiment jouable et que le reste du gang fonctionne par instruction.
Ouais.
Donc, ça pour le coup, cette façon là de gérer un peu de gérer un peu les choses, c'est purement Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts, c'est exactement. Enfin, de toute façon, FF15, avant que Tabata mette ses pattes dessus, c'était Kingdom Hearts dans l'univers de Final Fantasy VIII, quoi. Enfin, plutôt d'Advent Children. Tu prends FF7 Advent Children, tu le mélanges avec Kingdom Hearts, t'obtiens FF15, quoi. Donc c'est d'une logique irréfutable. Oui, après, Tabata a fait ses petits arrangements dedans, mais dans l'idée, c'est ça, quoi.
Il a fait ses arrangements, il a toujours gardé le lien avec Nomura pour toujours être en accord avec ses idées initiales. Et c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas non plus, parce que j'imagine que certains auditeurs sont pas forcément des férus de Final Fantasy, mais FF15 sera le premier FF numéroté de la série principale à être un RPG action. Là où habituellement on a du RPG au tour par tour, qui tendait à être un peu plus dynamique, notamment avec les derniers FF13. Mais voilà, donc c'est un parti pris assez fort. Je pense que moi c'est plutôt une bonne décision. C'est vrai que Square Enix essaie de rendre ses jeux plus dynamiques et effectivement quand tu parles de Advent Children, c'est vrai que c'est ce qu'on ressentait un peu dans FF13. On se disait, on a l'impression que c'est la dynamique des combats d'Advent Children, mais sauf que là on joue vraiment. Ben, je pense que dans FF15 ça sera encore plus avancé et c'est plutôt une bonne chose.
Mais ce changement.
Ouais, après, il faut voir au niveau du système, hein, parce que moi, c'est plus ça qui me fait flipper.
Alors, il y aurait des gambits apparemment qui permettraient de.
C'est ce que je disais.
Ouais. De personnes.
Juste qu'on explique. Un gambit, c'est.
Oui, pardon. Gambit, en fait, tu Donc, comment encore expliquer ça facilement?
Bah, c'est une pré-programmation, si tu veux. Tu des pré-programmes comportements. Des comportements à tes personnages pour qu'ils agissent d'eux-mêmes en fonction de paramètres et en fonction de variables.
Tu es plutôt offensif, tu es plutôt défensif dans telle situation,
c'est un peu plus complexe que ça, c'est un peu plus poussé que ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, si jamais tu descends en dessous de 30% de ton énergie, tu vas activer automatiquement ce sort ou tu vas avoir recours à telle option. Voilà, c'est plus dans cette optique, c'est par rapport à des variables et à des paramètres, il y a des situations.
C'est ce qui était très génial dans FF12 d'ailleurs.
Était très merdique dans FF12, on n'est pas d'accord avec Bastien.
Mais pour le coup, voilà, la question que je me posais en fait tout à l'heure par rapport justement à ce gros changement dans le gameplay quand même, mine de rien, de passer du RPG avec maintenant une composante action, est-ce que vous pensez que cet épisode-là pourrait servir d'une bonne façon de se lancer dans Final Fantasy et de découvrir le truc, ce FF15, ou est-ce que vous pensez au contraire que non, on débarque pleine Fabula, on débarque déjà dans un arc narratif et dans un univers qui a déjà été posé avec des épisodes précédents, et c'est vraiment pas l'épisode pour se lancer dedans?
Square Enix s'arrange toujours, que ce soit pour même pour Lightning Returns, ils s'arrangent toujours pour dire que ça va plaire aux fans et aussi aux nouveaux joueurs. Donc je leur fais confiance là-dessus. Je pense que quelqu'un qui connaît pas la série pourra se lancer dans FF15.
D'accord.
Après, évidemment, pour capter toutes les références, toutes les subtilités, notamment à la mythologie qui a déjà été établie dans FF13, c'est vrai que c'est mieux d'avoir joué aux épisodes précédents. Mais
ouais. Enfin, ceci dit, l'univers Fabula Nova Crystallis n'a plus réellement raison d'être, parce que déjà sur Taipo. Parce qu'à la base, il s'appelait Agito, hein, FF13 Agito, qui est devenu donc Taipo, donc qui a réutilisé un peu cette histoire de cristaux, etc., qui était vraiment très proche du 13 dans cette optique, mais qui a strictement rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et versus 13, qui est devenu 15, et qui a peut-être gardé 2-3 trucs. De liens avec Fabula Nova Crystallis, mais c'est pas explicité.
Par rapport à la DS et trop des choses vraiment très qui sont pas vraiment essentielles dans le scénario, quoi.
Justement, j'attends vraiment une déclaration du producteur pour le coup, parce que là Square a vraiment joué un peu bizarrement là sur le TGS en mettant en avant son nouveau directeur, donc Hajime Tabata, en le faisant répondre à toutes les questions, toutes les interviews, alors que on le sait, dans l'univers, dans l'histoire de Final Fantasy, les interviews où on apprend le plus de choses, etc., viennent toujours des producteurs. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience que Yoshinori Kitase prenne la parole, certainement Jump Festa d'ailleurs, pour en dire plus, ou Hashimoto, pareil, pour en dire plus sur le jeu, sur la direction que ça va devoir prendre, etc., quoi.
D'accord, très bien. On va prendre juste quelques tweets avant de passer à la suite. Empathique Gamer qui nous dit donc nous allons vers un FF15 ou un FF crossover avec de multiples reprises des anciens FF en un seul. Est-ce que vous avez une réponse à lui donner? Non.
Est-ce que tu peux reposer ta question? Excuse-moi.
Attends, alors, j'ai fermé l'onglet, j'ai perdu, donc on va la reprendre. Empathique
Gamer. FF crossover.
FF15 ou FF crossover, ça.
Non, ça sera pas un crossover, ça sera un épisode qu'aura son unité. Justement, le réalisateur ne souhaite pas intégrer trop d'éléments des autres épisodes, donc non, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Là-dessus.
Très bien. Mutsui qui nous dit à propos de FF15, j'ai surtout vu l'inspiration vers Crisis Core, les combats avec notamment une certaine rigidité visible sur le trailer du TGS. Vous trouvez aussi que c'était un peu balayé dans le cul?
Alors pas trop, justement, au contraire.
Non, je vois pas trop l'inspiration Crisis Core, étant donné que c'est un système basé sur des cartes et qui était vachement compliqué, quoi. Non, je vois pas trop l'inspiration en l'occurrence, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais je trouve que c'est inexact en fait.
Ok, très bien. Et FFX2, pardon, c'était uniquement féminin, chacun son tour.
Oui, c'est effectivement.
Excuse-moi.
Non, mais il y a pas de problème, t'inquiète pas. je te défenestrerai plus tard. FF102, oui, c'est un casting exclusivement féminin, tout à fait.
Il faut pas que je me trompe, parce que là j'ai touché au sacré, attention. Hein. Je prends une grave risque quand même en faisant ça. Est-ce qu'on peut tenter d'avoir Oscar avec nous quand même pour savoir si ça se passe bien, si tu es parmi nous encore? On va tenter d'avoir Oscar, peut-être un mot, non? Oui? 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 Et non, on ne t'entend pas. Bon, très bien, bah, on aura tenté d'avoir Oscar. Hein.
Sinon, Inks, tu peux dire aussi que FFXV est attendu.
Bien sûr. Hein. Et nous sommes l'année 2014, alias MMXIV. Tout à fait, c'est exactement ça. Dites-moi, en 2014, quand on veut accéder un peu à Final Fantasy et s'en refaire certains, on a deux possibilités. Soit on va, par exemple, sur le PlayStation Store, où on va en brocante et on récupère les originaux, en téléchargement donc ou en version disque original. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y en a de plus en plus, on peut se choper un remake, alors ça peut arriver, enfin un remake, mon dieu, une réédition, faut pas se tromper de terme. Encore qu'il y a eu quand même,
il y a eu un ou deux remakes,
quand même malgré tout, pour le coup. Qu'est-ce qui est la meilleure solution aujourd'hui quand on veut se refaire un FF? Est-ce qu'il vaut mieux choper l'original ou est-ce qu'il vaut mieux choper un petit quelque chose qui a été un peu refait?
Bah, ça dépend les épisodes en fait.
D'accord, donc il y a des réditions de merde.
Je vais donner un exemple. Bah, par exemple, Final Fantasy VI, il n'y a pas une seule version qui est valable.
Il n'y en a pas une sur Game Boy Advance?
Même pas la Super Nintendo. Non, parce que la GBA a un son de merde, donc du coup, tu profites pas des musiques.
D'accord.
La version PlayStation rajoute des loadings. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La version sur téléphone,
on n'en parle pas. Je pense qu'on va pas parler de téléphone.
Ouais. Puisqu'on va très, on peut se fâcher très, enfin tout rouge quoi. Et la version Super Nintendo était une adaptation et non pas une traduction originale. Tu vois. Donc du coup, est-ce que les gens ont joué à FF6 sur Super NES qui s'appelait FF3 donc aux États-Unis. Et en fait ils ont jamais joué à FF6 parce qu'ils ont pas le vrai texte d'origine qui est beaucoup plus proche d'ailleurs dans la version GBA qui est arrivée plus tard.
D'accord.
Mais où tu perds la musique parce que elle a un processeur sonore de merde. Donc voilà, au final FF6 la meilleure version ça reste la version Super Nintendo, mais en même temps tu passes à côté d'un certain nombre de subtilités du scénario ou de blagues ou de trucs en dessous de la ceinture qui ne sont pas représentés dans le jeu.
Tu le disais, il y a des différences entre les versions, notamment certaines traductions européennes. Enfin, je pense le truc auquel tout le monde pense quand même mine de rien, c'est FF7 avec Cloud qui traduit en
Cloud, ouais.
En Cloud,
par exemple.
Il y a des traductions comme ça assez assez malheureuses.
Ouais, FF7, si avec ça, c'est très cool.
ou des phrases qui se terminent pas, des erreurs de syntaxe, des erreurs de grammaire, des problèmes d'orthographe, etc. Oui, on va même pas en parler. Au niveau des remakes, en tout cas pur, et je pense que Bastien sera d'accord avec moi, le meilleur incontestable de tous, hein, c'est vraiment FF4 Complete Collection.
Ouais, j'allais en parler.
Ouais, qui est sorti sur PSP. Bah vas-y, je te laisse en parler.
Bah, alors, il y a eu effectivement, on va plutôt appeler ça un portage, même si c'est un lissage en fait. C'est plutôt un lissage de la version d'origine sur PSP, qui pour le coup a une direction artistique qui est plutôt cohérente et agréable à l'œil, qui contient à peu près tout ce que contenait l'édition originale. Après, il y a eu une version 3D sur Nintendo DS que moi j'ai trouvé un peu plus décevante. J'étais plus convaincu par la version 2D du coup. Je sais pas ce que t'en penses.
C'était pour avoir un nouveau public en fait. Le grand truc à l'époque de la Nintendo DS c'était mon dieu, on peut avoir des trucs en 3D, c'est pas dégueulasse, etc. Ça peut être joli, ça peut être kawaii quoi. Et en gros ils ont sorti FF3, ils ont fait un test FF3 en 3D comme ça, ça a fonctionné, donc ils ont fait le 4 tout simplement. En gros ça s'arrête à ça quoi.
Oscar nous transmet en langage des signes que c'est quand même dégueu sur DS, avec la capacité 3D de la DS était quand même un peu limitée pour le coup.
Oui, mais enfin, il y a plein de gens qui ont commencé, par exemple, plein de gamins de merde qui ont commencé à jouer sur DS et qui ont pu faire un RPG extraordinaire, même s'ils l'ont pas découvert comme nous. Moi, je trouve pas ça très gênant. Après, pour nous, pour les vieux cons, quoi, entre guillemets, il y a eu cette fameuse édition là sur PSP qui déboîtait, étant donné que graphiquement, c'est quand même plus beau qu'FF6, quoi.
Ouais, c'est-à-dire
que c'est prendre un jeu ancien, de garder ses mécaniques anciennes, hein, mais de lui faire subir un liftage de façon à ce qu'il soit encore plus beau que le plus beau 2D qui était en 2D entre guillemets, d'accord, avec en plus la possibilité, un gros clin d'œil aux fans, puisque tu avais la possibilité de switcher la musique, c'est-à-dire que les musiques ont forcément été réarrangées pour cette version supérieure, tu vois, enfin cette version HD entre guillemets, et t'avais la possibilité d'avoir les musiques d'époque, et ça je trouvais ça vraiment génial pour un fan, quoi. En plus de ça, t'avais les années suivantes qui étaient un peu bah genre ce qui se déroulait je sais plus 15 ans après, un truc comme ça. Et qui bénéficiait de la même qualité graphique, donc vraiment là pour le coup découvrir FF4 dans ces conditions, oui là je dis clairement les remakes s'imposent, tu vois.
Alors par parce contre que... ils ont réitéré l'exploit de faire des lissages sur certaines versions comme FF5 sur iPad et mobile. Et alors pour le coup c'est vraiment dégueulasse, donc je voilà, bon, les lissages faut vraiment choisir quel épisode vous souhaitez refaire. Pour le 4 il y a pas de problème, vous pouvez foncer, mais alors moi qui ai acheté la version de FF5 sur iPad voir.
Ça se joue en tactile, enfin comment
ça
se passe?
C'est horrible, c'est même pas.
Tu pourrais penser, pour un jeu qui se fait plus ou moins au tour par tour, enfin tu te dis bon ça pourrait peut-être si c'est bien.
Oui mais c'est pour les déplacements que c'est galère, enfin voilà.
Ils ont simplement scotché genre une fausse croix à l'écran transparent.
Ils ont mis un stick transparent en bas de l'écran et
ouais,
là,
bref,
tu déplaces comme ça.
Un truc à gerber, quoi. Bref, en tout cas, si on peut conseiller un truc, et je pense que Bastien me rejoint là-dessus, les anciens FF, c'est-à-dire époque NES, Super NES, il faut les faire sur les machines d'origine. Alors, je sais que c'est pas toujours simple. Dans ce cas-là, il y a des éditions portables, notamment, je pense notamment à Dawn of Souls, qui était sorti Final Fantasy 1 et 2, qui était totalement refait, voilà, qui était très joli, mais qui conservait tous les archaïsmes d'époque. Donc après, à vous de voir si jamais vous avez envie de vous confronter à la vision d'un RPG des années 80. Et les épisodes PlayStation, on peut parfaitement les refaire en les téléchargeant sur le PSN, par exemple, parce que il reste en 4 tiers, etc.
FF7 et 8 étant aussi dispo sur PC dans des versions plutôt fidèle à l'original, donc actuellement. D'accord. Sur Steam ils peuvent aussi être téléchargés, donc voilà.
Ah, parce que j'en ai entendu du bien comme du mal des versions Steam, donc
mais tu veux dire que le test de Gamekult de FF8 c'était de la merde?
Écoute, je ne l'ai pas lu donc je ne peux rien dire.
Je parle à Bastien.
Ah d'accord, Bastien.
Je l'ai pas lu.
Ah bon, d'accord.
Bon,
dommage.
Eh ben écoute, mais du coup quelques réactions quand même, du coup avec notre ami Jiko qui nous dit FF10 sur PS Vita, rêve de gosse de jouer à FF10 dans le métro.
Ouais, ou dans les chiottes plutôt, ou dans ton lit, non mais vraiment.
Et dans les deux cas, il y a un certain nombre de microns, pas pour le lit forcément, mais en tout cas pour les chiottes et pour le métro. Le Coral qui nous dit, Coral 666, attention, sur Twitter, le Twitter handle, ça déconne pas. Et la version PS1 de FF6, plus proche de l'original ou de la version américaine?
Alors, la version PS1, non, c'est plus proche de la version GBA.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire en termes de traduction, puisqu'elle a été refaite à partir de là, mais ils ont rajouté ces putains de loading et en plus des scènes cinématiques qui moi ne m'ont absolument pas convaincu. Même à l'époque, ça me convenait pas vraiment parce que le travail d'Amano essayait d'être utilisé à la manière de Tengo no Tomachi, donc le l'œuf de l'ange qui était un dessin animé qu'il avait réalisé. Et au final ça fonctionnait pas parce que en plus on avait cette espèce de vieille 3D dégueulasse, tu vois, qu'on avait au début à l'époque des cinématiques PlayStation, et là franchement ça collait pas à mon sens.
Si ma mémoire est bonne, FF6 sur PS1 était en anglais alors que la version GBA est en français.
Exactement, et je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est Tenchi no Tomago, hein, l'œuf de l'ange.
La version GBA est la seule en français, il me semble.
Ouais,
Oscar
exactement.
C'était
voilà,
un test.
Wouh,
oh la vache, ah bien, franchement c'était parfait.
C'est pour un test, c'est une très bonne
parfait,
intervention.
C'est parfait parce que on arrête l'émission tout de suite.
non, vous inquiétez pas, vous le voyez sur votre petit player, vous le voyez sur l'heure à laquelle il est actuellement. Il reste encore 18 minutes d'émission, vous inquiétez pas, on continue avec vos tweets au hashtag le player club. Fracnar qui nous dit on peut aussi télécharger les 6 premiers FF sur la console virtuelle Wii U. Nathan qui nous dit arrêtez de parler de lissage, on se croit dans un salon de coiffure, et des questions sur FF15 qui viendront à la fin si jamais il nous reste le temps. Bah, c'est très bien que tu sois avec nous, Oscar, pour le coup. Parce que la question que je voulais poser ensuite, c'était de savoir si Final Fantasy est la série du RPG. Et avant de parler vraiment niveau qualité et niveau jeu, est-ce que tu peux nous dire niveau vente, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment le monstre tentaculaire que c'est censé être?
Alors,
Plus ou moins, ça dépend comment tu vois les choses. C'est-à-dire que techniquement, la série du RPG aujourd'hui en termes de vente, ce serait plutôt Pokémon, qui reste un RPG, même si c'est bien un sûr. Cas assez particulier.
Je me serais attendu à ce que tu me dises Dragon Quest par rapport au Japon. Pour le
voilà. Coup. Alors si tu limites aux séries japonaises et en écartant Pokémon, au Japon, c'est Dragon Quest. À l'international, c'est Final Fantasy. Sachant que Dragon Quest et Final Fantasy, c'est quand même deux séries très différentes et très complémentaires, parce que si tu veux, Dragon Quest, c'est l'école conservateur, alors que Final Fantasy, c'est le truc plus progressiste qui, à chaque épisode, va essayer d'innover dans le système de combat, qui est l'opposé de Dragon Quest, où c'est vraiment censé être la valeur sûre du RPG classique à la japonaise.
Quitte dans sa série principale, dans les épisodes numérotés, à caser un MMO par-ci par-là.
Oui, voilà, mais en même temps, Dragon Quest aussi, maintenant.
Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, ça a été annoncé justement au TGS, ouais, mon dieu.
Non, mais une erreur fondamentale, parce que ça n'a pas fonctionné, quoi. Dragon Quest X, non, Dragon Quest X n'a pas fonctionné. Et Oscar, tu peux raconter le truc, on fait juste une petite aparté sur Drag 10, mais par rapport à cette histoire de streaming, là, sur 3DS, de Drag 10, tu connais l'histoire ou pas?
Bah que ouais, c'est le jeu est entièrement en streaming, donc ça marche super mal, quoi.
Ouais, non, mais ils l'ont carrément interdit parce que je sais plus pour quelle raison.
Ah bah ils ont ils ont arrêté de le vendre, c'est-à-dire que le jeu a plus marché que ce qu'ils pensaient, et en même temps
les serveurs répondaient plus, c'est ça?
Vu que tout le jeu entièrement est en streaming, c'est pas juste le fait d'être connecté sur internet, c'est vraiment que, enfin, c'est du streaming, quoi. Donc forcément c'est pas évident à mettre en place.
Je veux dire que la 3DS envoie les inputs et le serveur te renvoie l'image.
Oui, voilà, parce que
c'est complètement con.
Ouais, complètement.
Donc du coup ça marche super mal. Enfin, il y a des vidéos sur YouTube où tu vois les gens qui jouent, c'est juste affreux, quoi. Alors bon, c'est pas tout le temps comme ça non plus, mais voilà, de regarder sur Amazon Japon la note que se farcit le jeu, c'est catastrophique.
Mais déjà on live avec un bon PC, une bonne connexion, c'est déjà la zone, mais alors sur 3DS
wow. Ouais, bah c'est le même système que sur smartphone, parce qu'ils l'ont sorti aussi sur smartphone.
Oui, ce qui explique pourquoi ils arrivent à le sortir sur tant de supports aussi facilement.
Oui, voilà, oui. Finalement, il y a que sur Wii, sur Wii U et sur PC que t'as le vrai jeu, que tu peux y jouer normalement, quoi.
Eh bien, c'était la fin de notre podcast Dragon Quest. Nous revenons sur Final Fantasy. merci pour cette incursion. Non. En termes de qualité, en termes de symboles, est-ce que c'est la même chose qu'on perçoit dans les ventes pour vous, Jay et Bastien? Est-ce que Final Fantasy, c'est finalement le RPG préféré en Occident et qu'au final, c'est plutôt Dragon Quest au Japon?
Alors, je vais pas dire que c'est le RPG préféré, mais c'est le plus emblématique. Et comme l'a très justement dit Oscar, il est très progressiste, c'est-à-dire qu'il se remet constamment en question, mais il assure un fil rouge, une continuité comme ça, d'épisode à épisode. Il y a une espèce de il y a une vingtaine de points comme ça qui se retrouvent dans chacun des épisodes qui font que c'est un Final Fantasy, si tu veux. Et ça a super bien fonctionné parce que FF7, c'est tout. Ça s'est répandu dans le monde.
Ouais, c'est 10 millions FF7.
Ouais, tu vois, voilà. Et par la suite, bon, bah voilà, même si les gens commençaient déjà à avoir accès à des forums et ce genre de choses et pouvaient, comment dire, intervenir pour dire de la merde et sur chacun des épisodes qui sont sortis par la suite, mais il n'empêche que voilà, je pense que ça s'est quand même bien maintenu au niveau des ventes. Il y a juste au niveau du 14 où ça a été vraiment une cata et où ils l'ont refait et où ça a redécollé, enfin, j'imagine.
Ouais, mais de toute façon les MMO, tu peux pas les mettre dans le même sac que les autres épisodes, parce que c'est des jeux où ils font des ventes nettement moins importantes, mais ils se rattrapent sur les abonnements.
Voilà, c'est pas du tout le même modèle économique pour le coup.
Maintenant, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que t'as quand même une certaine baisse de régime de la série depuis FF10. C'est-à-dire que FF7, donc c'est 10 millions, après c'est descendu à 8 millions, et FF12 ça fait 6 millions, FF13 un peu plus de 6 millions. Et enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine, un certain problème avec la série, surtout par rapport aux multiples spin-offs qui entourent la série, aux rééditions dont on parlait tout à l'heure, où c'est quand même un bordel de faire le tri dans toutes les rééditions, et que tout ça désacralise un peu les vrais épisodes Final Fantasy, quoi.
Donc ça noie, ça noie le marché sous la marque Final Fantasy, finalement. On s'y retrouve plus, c'est ça le problème.
Bah, je dirais pas qu'on s'y retrouve plus, parce que bon, on peut quand même s'y retrouver, vu qu'ils gardent la numérotation pour les pour les vrais épisodes. Mais enfin, moi j'ai l'impression que malgré tout, l'image de la série Final Fantasy souffre un peu des multiples spin-offs qui sont pas toujours réussis, et où parfois même on s'en fout totalement, comme le Final Fantasy Explorers là, qui va sortir à la fin d'année au Japon.
Ah, ça va être un grand jeu. Ça va être un grand
jeu. Mais non, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool.
Il a l'air dégueulasse, quoi. Franchement, c'est. Enfin.
Moi, je pense que ce qui altère l'image de Final Fantasy, c'est les connards. Et puis voilà, c'est tout. C'est-à-dire que chaque épisode est différent. Et il y a des épisodes, moi, que je kiffe absolument pas, genre le 12 où j'ai eu beaucoup de mal. Mais fondamentalement, je pense que vraiment, c'est une série sur laquelle il est facile de tirer, étant donné que c'est un truc super universel et que justement ça plaît à tout le monde. Maintenant, pourquoi ralentir les ventes? Enfin, ça s'accompagne aussi du reste, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu un revirement de situation où le marché américain, avec ses propositions de jeux de rôle, sont revenus au devant de la scène, et ont permis aux gens de découvrir de nouvelles choses aussi, quoi. C'est tout.
Oui, c'est tout à fait. C'est typiquement, on le voit avec Elder Scrolls, qui est devenu une référence commerciale.
Par exemple.
Alors qu'à l'époque, c'était limité au PC, donc ça restait un marché plus ou moins de niche, quoi. Même si ça marchait déjà très bien à l'époque, c'était rien par rapport à ce que c'est aujourd'hui, quoi.
Voilà.
Très bien, merci pour vos réponses à cette question. Quelques réactions sur Twitter. Le compte de Nintendo Joe, suivi par Medus, qui s'est en fait trompé, m'interpelle et me dit qu'en fait le streaming c'est pas si dégueulasse que ça, et notamment sur Crysis 2 ça marche pas mal sur une live. Je veux bien le croire, mais mon point c'est quand même que sur 3DS c'était un peu dingue de vouloir tenter la chose quand on connaît à quelle vitesse télécharge les jeux de l'eShop ou ce genre de choses là, et surtout simplement tu regardes le hardware, tu dis ça va streamer du jeu, ça? Non, j'y crois pas. Simplement une observation là-dessus. Effectivement, ça peut fonctionner, mais ça reste aujourd'hui une technologie qui est pas encore, à mon avis, totalement au point. Et d'autres réactions de gens qui citent notamment Jet tout à l'heure avec ce qui alterne l'image des Final Fantasy, c'est des connards. Donc voilà, vous réagissez au hashtag, et moi j'ai une dernière question à vous poser avant de terminer le Player Club pour cette semaine. Si on veut commencer Final Fantasy en 2014, qu'on n'a jamais mis les pieds dedans, aujourd'hui, ça peut arriver. Par quoi on doit commencer? Par quel épisode? Quel épisode permet de le mieux découvrir la série et le mieux s'y mettre finalement?
Je pense que ça dépend de votre tolérance vis-à-vis de la technique et des anciennes consoles. C'est-à-dire que si vous êtes un bon vieux rétro gamer, vous pouvez plonger sans problème sur les versions, sur les tout premiers épisodes.
Ouais.
Si vous êtes un peu plus réticent, moi j'aurais tendance à recommander FF9, qui est personnellement un de mes préférés. Voilà, sur PS2, moi j'ai beaucoup aimé FF12. Je sais que Jay a eu un peu plus de mal. Et voilà, après, je pense que tous les épisodes en fait permettent d'aborder la série. Moi, je recommanderais le 9.
D'accord, très bien. Non, parce que forcément, intuitivement, il y a une telle conversation sur Internet et en général à propos du 7.
C'est pour ça que je recommande le 9.
que c'est un peu l'épisode où tout le monde se dit, je vais commencer à Final Fantasy, je vais faire le 7. Est-ce que c'est une mauvaise idée de faire le 7 d'abord?
Non.
Il est plutôt réussi. Il est même très bien. Après, on a l'impression que les gens ne jurent que par cet épisode et oublient un peu les autres autour. Moi, je sais que des trois sorties sur PS1, c'est vraiment le 9 que j'ai préféré, par exemple.
C'est pas simplement l'effet que c'est une certaine génération qui a pris le jeu vidéo à un certain moment et qui a pris Final Fantasy à un certain moment au début de la PlayStation et qui sur le 7.
Mais ça c'est une évidence. Enfin, c'est évident que c'est un truc générationnel. Par exemple, les gamins actuels quand ils découvrent FF, qui découvrent avec FF13, n'en déplaise à un certain nombre de personnes, ils trouvent ça génial. Bon, pourquoi? Parce que bah peut-être qu'ils ont pas connu avant et peut-être parce que tu leur mets FF6 et ils dégueulent. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont pas habitués à ce genre de truc. Moi, si jamais j'ai un FF à conseiller au niveau de l'histoire de la série qui est très important, c'est FF4, encore plus que le 6, parce que il détermine absolument toute la série Final Fantasy derrière. Et donc c'est indispensable de faire FF4 pour comprendre FF6, pour comprendre aussi les choix qui ont été faits sur FF7, pour comprendre ensuite pourquoi la série a évolué. Le deuxième indispensable, de la même manière, c'est FF7, parce qu'il détermine ce qui va se passer sur PlayStation. Le troisième indispensable, c'est FF10, parce qu'il détermine ce qui va se passer par la suite. Et voilà, mais je conseillerais même pas FF13, parce que je pense que les gens sont pas assez intelligents pour le comprendre. Voilà.
Et, bah, pour le coup, c'est France Rejoint quand même qui conseille le 13 parce que c'est un bon jeu et que ça évite de se mettre dans la tête que Final Fantasy c'est du tour par tour fantasy themed.
Mais il a raison d'une certaine manière, oui, c'est vrai, c'est un peu plus action, c'est vrai qu'on se retrouve pas à diriger trois personnages en même temps, c'est vrai que c'est très drivé, mais tu passes un super moment et c'est quand même un divertissement de supra qualité. En fait, quand même au-dessus de la moyenne, quoi.
Tu recommandes FF13 pour une simple et bonne raison, pour faire comprendre aux gens que la série évolue vraiment d'un épisode à l'autre et fait des choix vraiment cornéliens à la fois artistiques et dans son gameplay. Et FF13, c'est l'exemple parfait pour illustrer ça. FF14 encore plus, parce que du coup, c'est un MMORPG. Mais bon, voilà, FF13, c'est vrai que c'est un peu casse-couille d'entendre toujours les mêmes personnes râler sur l'évolution qu'a pris la série avec cet épisode. Moi, je le défendrai toujours corps et âme, mais voilà, c'est un épisode qui doit pas être snobé, donc je dirais pas que c'est le premier à faire effectivement pour se plonger dans la série. Je pense que Jay parle de FF4, c'est vrai qu'il y a la version PSP, on en a parlé tout à l'heure, qui est plutôt très propre, donc effectivement c'est un épisode assez majeur qui reflète assez bien l'esprit de la série.
Très bien, bah justement c'est assez amusant parce que Jean Deathwalk nous dit de toute manière pour découvrir les FF la meilleure manière reste de tous les faire et de découvrir l'évolution de la série, et Quences nous dit ou Lion's Banner en fait plus simplement, même si je ne les ai jamais finis, j'ai bien aimé les Tactics Advance sur GBA et DS.
Ça c'est intéressant parce que effectivement Final Fantasy Tactics est une très bonne initiation aux stratégies RPG, donc au tactical RPG, ce qu'on appelle le tactical RPG. Donc c'est-à-dire que tu ouvres avec FFT ou avec les Tactics Advance qu'on peut très bien faire aux chiottes, c'est très sympa à faire aux chiottes d'ailleurs. Et derrière tu t'ouvres vachement au tactical et t'en fais des beaucoup plus complexes, au point d'un jour commencer à jouer à un Nipponichi, quoi. Mais c'est une très bonne entrée en matière pour rentrer dans le tactical RPG. Donc FF est une série majeure du RPG aussi parce que ses spin-offs, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, sont souvent d'extrêmement bonne qualité et permettent justement d'avoir une vision annexe de l'univers tout en ayant un gameplay adapté.
Je me permets juste d'interrompre juste vite fait parce que je tiens à préciser que typiquement Final Fantasy Tactics c'est pour moi l'exemple parfait du spin-off réussi de Final Fantasy comme ils le faisaient à l'époque, c'est-à-dire que ils s'intéressaient à un genre qui montait qui était le tactical RPG, ils allaient chercher un mec qui savait les faire comme Matsuno par rapport à ce qu'ils font maintenant avec Final Fantasy Explorers où ils arrivent 10 ans après la guerre et ils font un truc qui a l'air vraiment basique, quoi.
Sauf que on n'est pas du tout à la même époque et il n'y a pas du tout les mêmes risques qui sont encourus, et par rapport à Explorers, c'est clairement une réponse à Monster Hunter ou au Phantasy Star qui va arriver, parce que voilà, c'est un gameplay qui fonctionne au Japon, ça fait que les gens jouent dans les cafés à 4 ensemble, même pas par internet, tu vois. Le fait de retrouver à la fois l'univers un peu MMO mais en mode kawaii sur sa 3DS, de pouvoir y jouer dans les bars, etc., c'est vraiment un jeu drivé pour le Japon, qui est vraiment conçu pour le Japon, quoi. Mais ça veut pas pour autant dire qu'il sera pas bon, tu vois ce que je veux dire.
Je suis désolé, je vais devoir vous arrêter là. On va terminer pour ce soir parce que malheureusement il ne reste plus de temps. J'aimerais tous vous remercier pour ce numéro du Player Club, pour avoir parlé de Final Fantasy. Merci Bastien, qu'on retrouve sur FF Ring et sur son compte Twitter @BastienPéan.
Exactement, c'est ça. Ben merci pour l'invitation, c'était assez cool. Il y a encore plein de choses à dire, mais
oui,
voilà, on doit s'arrêter.
Ben, dans un prochain numéro, on parlera peut-être de Final Fantasy sous un autre angle. Écoute, ce sera l'occasion. Merci à Jay Gameweb et dans l'étolier d'être venu. Merci beaucoup.
Merci à toi. Et puis, on attend FF15 avec impatience.
Mais je n'en doute absolument pas. Et Oscar Le Maire, @OscarLeMaire, c'est simple vos pseudos hein, Twitter en ce moment. on peut te lire sur GameCult et sur GameCharts.fr.
Voilà, prochainement pour GameCharts.
Voilà, merci énormément à tous d'être venus. Merci à Fumble pour sa chronique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain, 21h en direct, sur l'antenne de nos partenaires, la web radio Synops Live, et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV, radiojv.com. C'est complètement dingue. Et bon, voilà, un autre chose qui est complètement dingue, c'est l'équipe de Pass le Stick qui est avec nous. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Comment tu vas, Coco P?
Ça va très bien et ça prend des selfies à fond dans le studio et ça fait du bruit.
Ah
ça,
ouais.
C'est terrible. Et nous on regarde les chiffres et est-ce que ça va tenir?
Voilà. Tout va bien. Est-ce que t'es revenu bien du Japon là? C'était safe, tout va bien.
Plein de jet lag et j'ai les invités les plus fatigants de l'univers.
Alors
donc ça va être
ça parle bien.
Non. Honnêtement, on a une minute. Tu peux nous dire qui c'est tes invités?
Oui, c'est Mr MV et Ken Bogard de Gaming Live.
Il y a du beau monde ce soir. Vous allez avoir un test assez intéressant d'ailleurs, je crois, dans l'émission.
Ouais. Un petit jeu indé qui s'appelle Smash Bros sur 3DS. C'est pas très connu, mais on va essayer de bien le présenter comme il se doit.
Il y a une version Wii U, elle arrivera à la fin de l'année, je crois, j'ai entendu parler.
Ouais, c'est pas mal. Moi,
allez, je te laisse les rênes.
Merci beaucoup.
Ciao.
De 21h à 22h, le Player Club.